Oh, mais ça fonctionne pas, là.
Attends, laisse-moi faire. Replie-le, là, pour voir.
Ouais, je le replie, je le déplie. Non, y'a rien qui s'affiche, là. Je t'assure, c'est pas charme magique, je sais pas ce qu'il a.
Bah attends, la boutique du parchemin, il disait que ça marchait tout le temps, ce truc-là.
Ah, je sais pas, y'a peut-être des interférences magiques, encore une fois. Hein. Pff, c'est nul, quand même.
Oui, ça devient n'importe quoi. Bah, finalement, au lieu d'avoir des parchemins magiques, rien n'est mieux que d'être autour de la table, oui. Puis en discuter.
Et d'avoir les bouquins là qui sentent. Tu sens l'encre là. Voilà.
Oui, ils pèsent lourd, mais au moins, eux, eh ben, ils marchent tout le temps. Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et bienvenue à tout le monde, effectivement, à l'auberge du des vins. Grug vient de nous servir les bières et Finn nous a regardé un peu étonnamment quand. Parce que lui aussi, il a l'impression que les parchemins ne marchent pas. Et puis surtout, bien entendu, bienvenue à vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous nous écoutez. Et surtout, si vous conduisez, faites bien attention autour de vous. Et puis, on salue encore, bah, c'est Olivier que l'on salue, hein, qui dit qu'il nous écoute sur le périphérique. Donc, qui m'a donné une bonne idée d'ailleurs de rubrique pour mettre les joueurs en contact les uns avec les autres, peut-être par le biais d'un parchemin magique. Donc voilà, soyez les bienvenus pour ce 60. Je ne sais même plus combien on est, tout augmente.
Je n'ai plus de numéro non plus.
Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler de Donjons et Dragons autour de la table et puis ailleurs, c'est-à-dire par le biais de ces parchemins magiques, de ces écrans, c'est-à-dire en virtuel ou en distanciel, comme on veut. Il y a juste un petit point par lequel je voudrais qu'on commence, c'est quand Donjons et Dragons est sorti, donc il y a maintenant, ça va faire 10 ans pour cette nouvelle édition, il y avait un passage qui m'avait énormément surpris, et ce passage c'était pour les figurines, pas besoin de figurines, le théâtre de l'esprit sera largement suffisant.
C'est la bonne blague.
Voilà la bonne blague. Tu sens la bonne, si vous voulez, plein de bonnes attentions. 5 ans après, tu vas dans un magasin et t'as Whiskids partout avec des figurines hors de prix. Et vous avez absolument tout qui est représenté. Et si je veux en parler, j'en parlerai un petit peu plus tard aussi. Bah, c'est parce que bah, s'il y a bien quelque chose qui représente le présentiel et jouer à Donjons et Dragons autour de la table, bah, c'est bien la figurine.
Oui, c'est ça. Et ben après, je t'avoue que personnellement, quand j'ai commencé Donjons et Dragons, j'avais pas les figurines, j'avais pas les moyens, et du coup, je prenais une carte quadrillée, plastifiée, et je dessinais au marqueur. Et je te disais, t'es là. Mais bon, système D quoi.
marqueur, capsule de bière. Faudrait qu'on fasse un live pour citer tout ce qui a pu nous servir à un moment ou à un autre de figurines. Oui, à un moment, et tu prends absolument tout. Et c'est là où justement on arrive, je trouve, sur cette jonction de présentiel-distanciel, parce que Donjons et Dragons avec les figurines, c'est l'héritage simulationniste. Mais si tu joues sans figurine, ça on en a déjà parlé, mais que tu lances, toi en tant que maître de jeu, tu lances une boule de feu, t'inquiète pas que tous les joueurs vont dire naturellement non, mais je suis en dehors de la portée.
Oui.
Et
non,
chose
mais je t'ai caché en fait. Tu as pas entendu, t'es sûr? Tu buvais un coup là pendant que je parlais.
Et le distanciel a l'avantage de faire ce juge de paix, c'est-à-dire que tu sais exactement où tu es. Et
encore, j'ai envie de dire, parce que y a certaines personnes qui jouent sans les cartes et qui jouent juste à l'oral, comme tu le ferais sans cartes.
Je t'avoue que moi j'y ai pensé aussi, et j'ai trouvé, c'est compliqué. C'est quand même très compliqué, parce que déjà dans l'aspect naturel entre guillemets de Donjons et Dragons, tu vois, c'est parce que t'as les cartes qui sont dans les bouquins, t'as les fameux ordres de marche, t'as le fameux truc, c'est s'il y a un piège, tu vois, s'il y a un piège, c'est très très difficile hein, de dire le piège se déclenche ou pas d'ailleurs. c'est un point, je trouve, qui était difficile. Et quand cette 5E a dit, voilà, pour les figurines, on n'en parle pas, faites comme vous voulez, on n'est pas intéressé par l'argent. Alors, c'était pas écrit, mais bon, voilà.
Oui.
On a cette espèce de grande confluence. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les joueurs les plus anciens sont ceux qui ont leur groupe d'amis ou leur groupe de joueurs. Et ces fameux groupes de joueurs, ils se connaissent et ils jouent en présentiel. C'est ce qu'on voit. C'est plus t'es un joueur qui joue depuis longtemps, plus le présentiel, à moins qu'il y ait une espèce de rupture dans tes modes de jeu, des déménagements ou autre chose, le présentiel, c'est quand même le mode de jeu principal. Avec les copains, t'arrives, la pizza, blabla, ouais. et puis tu joues.
Oui, je t'avoue que ça, c'est bien un truc. Jouer en présentiel, je le fais quasiment qu'avec les amis. C'est rare, outre convention éventuellement, juste vite fait, voilà, pour... vu que je suis toujours MJ en général pour gratter l'envie de joueur, hein, c'est enfin une partie où je peux jouer.
Oui,
mais au-delà de cela, te faire je vais rencontrer des gens. Bah, après, il y a des gens qui jouent en club, mais une fois que tu connais les gens dans le club, tout ça, c'est un peu autrement. Mais là, le premier approche que tu fais, est-ce que tu veux vraiment jouer avec des étrangers comme ça, tu places ta petite annonce. Moi, je la garde personnellement pour les amis, le côté
oui.
Jouer en vrai.
Oui, parce que y a des raisons. Alors, je vais pas dire de sécurité, mais quelque part, dans cet aspect très social, tu sais pas qui tu vas rencontrer, donc.
Ah oui, ça aussi.
Ça permet aussi de limiter. Je dirais, tu commences le contact par du distanciel, puis après, si ça se passe bien, tu peux aller sur du présentiel. Et puis, c'est aussi on arrive avec cette cinquième édition à ce passage vers le jeu en VTT, vers le jeu en virtuel, vers la plateforme virtuelle. Au début de la... il y a 10 ans, 2014, de mémoire, bon, Roll20, c'était... c'était présent, bien sûr.
Oui, c'était bien présent, déjà.
Mais on n'avait pas cette espèce de phénomène... De ce phénomène maintenant qui a été évidemment amplifié par le Covid et le confinement.
Oui, c'est ça, on va dire le jeu maintenant à distance comme ça, c'est devenu un peu mainstream, où il y a beaucoup de gens qui ont découvert D&D grâce à cela. Mais avant, il y avait déjà, après c'était peut-être réservé pour un public un peu plus vraiment les geeks, les passionnés, parce que même avant Roll20, où c'est un site, tu te connectes, tu crées un compte, tu te connectes, c'est assez simple. Avant, je me souviens, je passais par Rollistream, quelque chose comme ça, qui en fait c'est des clients, des programmes avec clients peer-to-peer, et donc tu es obligé de créer un réseau. Donc tu avais besoin d'un programme Amashi, je sais pas si tu vois c'est lequel.
Pas du tout.
En gros, ça te permet de faire un réseau de maisons, mais par internet.
D'accord, oui, ok.
Et c'est comme ça que tu connectais tout le monde pour que tout le monde ait accès à la carte, genre de choses. Bon, c'était encore assez très très sommaire, mais il y avait ça. Je pense Rollistream, quelque chose comme ça, c'était pour les Français et les anglophones, ils avaient Maptool, si je me souviens bien. Donc, il y a toujours des gens, ils jouent avec ça, je pense.
Ah oui, mais je pensais parce que. Je pense que le public de Donjons & Dragons, s'il y a bien un public d'habitude, c'est quand même bien celui-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment utiliser. Alors, bien entendu, encore une fois, c'est une conversation. On n'est pas là en train de se... C'est pas un débat sur, à distanciel ou virtuel, genre de débat stérile qui n'amène à rien du tout, qui convainc personne. Voilà, parce que les deux sont bons. Voilà, il y en a une, c'est l'évolution. C'est vrai qu'effectivement, je connais des personnes qui n'ont fait de jeu de rôle qu'en distanciel distanciel. Et pour des raisons XY, mais c'est toujours du jeu de rôle. Mais comme on le voit, tu vois, aux États-Unis, dès que tu as des boutiques, toute boutique digne de ce nom, elle a automatiquement des tables pour pouvoir jouer. Et puis, bon, alors même si c'est beaucoup de jeux de société, hein, faut le reconnaître, il y a les tables Donjons et Dragons pour pouvoir jouer. Et puis. Et à côté de ça, on a un Hasbro qui a développé les tools et tout ça. Alors, il semblerait, d'après ce que j'ai lu dernièrement, qu'on commence à ils avaient parlé d'une espèce de virtual tabletop en 3D.
Oui.
Avec le moteur Unreal. Mais je pense que. J'ai cru lire qu'ils commencent à s'en éloigner.
Bah, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on a vu en développement réellement, ils nous font Roll20 en fait. Ils nous refont Roll20. Oui. C'est-à-dire que toutes les news qu'ils nous ont données, je pense, cette dernière année, ça a été on développe un truc en 2D. Vous n'avez pas parlé d'un truc en 3D, tout cela qui est surpuissant, qui t'affiche tes figurines, tout cela, tout cela. Donc, à voir, peut-être ils vont sortir ça pour la prochaine édition. J'ai quand même quelques doutes. Mmh. À voir aussi comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est vrai que quelqu'un il avait émis des réserves, c'est-à-dire que la majorité des gens qui jouent à D&D n'ont pas forcément un PC suffisamment pour faire tourner Unreal Engine chez eux, à la maison. Mmh. Et encore, il y avait la solution que c'est pas toi qui génère le fichier de Unreal Engine, donc les graphismes, tout ça, mais que ce soit hébergé sur la serveur de D&D Beyond, comme c'est le cas par exemple sur Roll20 et tout cela. C'est géré par le serveur, tout ce qui est affiché, c'est généré par le serveur. Sauf que là, ça demanderait peut-être trop de ressources si c'était hébergé. Et là, ils ont peut-être vu la facture, combien ? Pour combien de joueurs ? Ah, ouais, et on puis... demande combien par mois ? Ouh, ça va pas le faire, ça.
Et puis, ce que j'ai trouvé... j'ai le mot pitoyable qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu fort. Mais non, pathétique, je pense que c'était ça. C'était cette espèce de présentation où tu avais tout le monde autour de la table. Oui. Ils étaient physiquement autour de la table devant un écran.
Oui, c'est ça.
Bah, là, c'est pour le côté démonstration. En fait, arrêtez l'écran. Et puis vous pouvez jouer. Et puis c'est comme les parchemins magiques, les écrans, les vrais livres, il n'y a pas besoin de les recharger. C'était là, il y avait une espèce de croisée des mondes qui était assez étonnante.
Pourtant, je trouve que tu vois beaucoup ça, des gens qui ont mis un écran au centre de la table ou inséré vraiment dans la table, ce qui te permet de gérer les maps comme ça, ce genre de choses. Oui. Mais le côté où tout le monde est devant son écran, c'est vrai que c'était un peu fort.
En plus, ils étaient devant un écran, puis avec un casque.
Oui, ça aussi.
tu dis quand même que tu envoies des messages qui passent par des satellites qui font la moitié du tour de la Terre et puis qui reviennent pour être 10 mètres. Pour être un mètre à côté de toi. Mm. Alors, et c'est certain qu'on a pourtant dans Donjons et Dragons un potentiel énorme. Avec le VTT, alors potentiel de par le nombre de personnes qui jouent,
oui.
Et par ces possibilités. Alors, moi, je sais que ce que je trouve super, encore, c'est pas du Pathfinder, c'est le fait que tout soit compté pour toi.
Oui, oui, t'as beaucoup de trucs comme ça, et même tout ce qui est outils et ressources, tout est fait quasiment sur Internet pour jouer à D&D. Et c'est pas pour rien en fait, c'est un peu le fait est que vu que c'est le jeu plus populaire, c'est les gens quand ils créent des ressources ou ils veulent les partager, que ce soit pour gagner de l'argent quand même en partageant leurs trucs, ils vont faire en sorte de faire qu'est-ce qui est le plus populaire, D&D. Donc, et c'est un peu un cercle vicieux, tu vois, où oui. Tout le monde fait en sorte de nourrir la même bête et au final, bah oui, bah, t'as que D&D, que D&D est supporté, ou est le plus supporté, parce que dépendant aussi de cela, on peut voir qu'il y a quand même d'autres jeux qui sont joués, hein, clairement.
Oui.
Mais je pense, chaque année, je rigole quand même quand je vois les statistiques Roll20, Roll20 publie. À savoir à combien est D&D devant tous les autres jeux.
C'est combien t'as la ratio de tête ?
Ah bah justement, je pense qu'on va donner un petit coup de parchemin magique s'il fonctionne. Ouais.
Moi je pense que c'est du 80% parce que il y a, enfin aux États-Unis, je parle vraiment aux États-Unis, c'était des choses qui me faisaient sourire, c'est que tu vois régulièrement des articles 10 jeux de rôle qui ne sont pas Donjons et Dragons. Dans la pub pour le jeu de rôle City of Mist, il citait quelqu'un qui disait « C'est le jeu qui a fait que je ne joue plus à Donjons et Dragons. » C'est comme s'il y avait vraiment, tu sais, que ce jeu... D'ailleurs, on avait parlé aussi de personnes qui ne disent pas « Je fais du jeu de rôle, je joue au jeu de rôle. » Ils disent « Je joue à Donjons et Dragons. » Et puis après... Oh, you play D&D, et puis la personne va dire yes, oh no, parce qu'il va donner un autre nom de jeu. Et dans ce croisement autour de la table, je trouve qu'on a des composantes, les composantes clés, parce que quelles sont les composantes clés d'une partie de Donjons et Dragons autour d'une table, c'est-à-dire en vrai, on a un, les figurines, deux, on a les plans. Et et 3 on a la bière, mais ça c'est pour c'est pour c'est pour tout le monde. Mais tu vois les, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est par exemple Lock Battle Mat qui fait les fameuses cartes pour mettre tes figurines dessus. J'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils utilisent un élément virtuel, c'est-à-dire la carte informatisée, enfin la carte avec faite par ordinateur, celle que tu pourrais trouver dans un VTT, mais que tu mets autour de sur la table en physique pour mettre d'ailleurs tes figurines en physique. Et aussi on trouve les fameux tokens qui c'est ce qu'avait sorti Wizard avait sorti dans ces deux gros échecs énormes qui avaient été la valise des créatures et la valise des terrains, où les créatures c'était tout simplement c'était des tokens, c'est-à-dire que c'était des jetons et tu collais le jeton était vierge et tu collais la représentation du monstre qui était en électrostatique que tu pouvais retirer à volonté. Et pourquoi ça a été un bid, c'est que outre le fait que ça soit pas très bien vendu, c'est qu'il n'y a pas eu de suite, donc tu es avec un nombre très très limité de créatures, et surtout c'est qu'en gros quand t'as horde de gobelins ils seront 3, quoi, c'est ce qui est embêtant. Ce qui est dommage parce que les pions étaient de bonne qualité, mais là c'était intéressant parce qu'on avait cette convergence, c'était on va faire des figurines physiques mais qui auront le format de la figurine virtuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu la figurine de base que tu achètes, c'est pas sous une forme plate de jetons.
Oui.
Elle est sous cette forme de 3D, figurine 25 de 2 cm 5. Et là, ils avaient produit des figurines, mais qui étaient comme des figurines virtuel, c'est-à-dire que c'était les fameux tokens ronds que tu faisais décaler, qui d'ailleurs amenait un problème, c'est que quand tu jouais avec des figurines, j'allais dire normales, tu te retrouves avec soit des visions verticales, soit des visions horizontales. Donc même si c'est un, je caricature, mais même si c'est un dragon qui va être plus grand parce que ton token il va faire 10 cm de large, je dis n'importe quoi, ta figurine de halfling qui va faire 1,5 cm, elle apparaît toujours comme étant plus grande. Et c'est ça aussi, je trouve, une des limitations.
Oui, je vois ce que tu voulais dire quand tu parlais de virtuel, parce que oui, c'est plat, oui, comme le jeton sur le VTT. Oui, après, maintenant, tu commences à avoir aussi beaucoup de packs où ils te proposent les deux, c'est-à-dire que tout est fait en digital, et on te propose la version imprimée. Et puis, bon, ça n'a jamais arrêté les gens de tracer ou de faire Photoshop vite fait un jeton, l'imprimer eux-mêmes, et puis comme ça, tu l'as en vrai.
Bien entendu. Alors, on a retrouvé le chiffre ?
Alors, j'ai trouvé des chiffres, malheureusement, pas de cette année ni rien, mais à chaque fois, on peut voir que c'est au moins 50 à 60% de games joués.
Pour le mondial ou les États-Unis ?
Mondial sur Roll20.
Ouais, d'accord.
Roll20, hein, j'entends.
C'est vrai que ça serait bien qu'on ait le chiffre pour les États-Unis, parce que on n'est pas à 60% pour les États-Unis pour Donjons et Dragons. Je pense vraiment qu'on est à plus. Et c'est aussi, tu vois, cette transition, donc ça on en avait déjà parlé, puis c'est l'occasion d'en parler aussi dans cette émission.
C'est aussi la cinquième, je tiens à préciser, étant donné qu'il y a aussi des statistiques pour les autres systèmes.
Ah oui, d'accord.
Qui, bon, elles sont moindres, hein, forcément, mais ils sont quand même joués, quoi. tu le vois.
C'est ça qui est fou, parce que, donc, on le disait bien, le fait que de plus en plus de choses soient en format numérique pour Donjons et Dragons, alors c'est-à-dire qu'on peut, pour ceux qui connaissent pas trop, on peut trouver tout ce qui est comme document officiel Donjons et Dragons sur les plateformes, payant bien sûr, légal et payant, et que il y avait eu donc ces fameux projets d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire que les maîtres de jeu, lorsque tu t'inscris à, alors c'est D&D Beyond ou One D&D, je sais plus pour les noms en fait, entre
D&D Beyond c'est le site et One D&D c'est le nom de l'édition, tu reconnais.
Voilà, c'est ça, et il n'y a pas de changement qui est prévu, je crois, pour les noms.
Non, mais ils ont décidé d'abandonner.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est, tu vois, ils voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour que tu puisses vivre des aventures Parce que, bah, effectivement, il y a cet énorme décalage entre les joueurs, le nombre de joueurs et le nombre de maîtres de jeu. Et ça, c'est un souci.
Oui, c'est un gros souci. Il y avait eu des articles il y a quelques temps, presque un an maintenant, où il y avait une vraie crise du Dungeon Master, que les gens essayaient de trouver à tout prix un Dungeon Master et que ces pauvres bougres étaient assiégés de toutes parts et que tout le monde aussi voulait jouer, tu vois. Ils sont en mode, non, le rôle de maître du jeu, non, pas pour moi, je veux jouer. C'est une mentalité un peu particulière.
Et alors c'est vrai que je trouve que lorsque tu passes sur, quand tu vas jouer à du Donjons et Dragons sur du virtuel, ça coûte moins cher. Et puis tu vas avoir, l'idée que j'en ai, c'est une sorte de partage des frais entre guillemets, parce que tu vas pas parce que quand tu prends sur du réel, t'achètes ton scénario, donc il va te coûter un peu cher, et surtout je parlais des figurines WizKids, il faut vraiment garder en tête, hein, pour tout, et on salue tous ceux qui ne jouent pas à Donjons et Dragons, mais c'est que si en France on arrive à voir l'étendue de ce qui sort avec les bouquins, si on n'est pas dans une ville qui a une grosse boutique de jeux de rôle, il est très difficile quand même d'imaginer le nombre absolument hallucinant de figurines produites pour le jeu, pour la cinquième, estampillée officiellement cinquième.
Oui, à chaque supplément, chaque campagne entre guillemets qu'ils te produisent, ils te produisent quasiment toutes les figurines. Des fois avec un petit décalage, j'avais remarqué ça, notamment sur Ghost of Saltmarsh. Il y a des figurines, elles étaient sorties peut-être il y a un an, 6 mois, alors que le bouquin était sorti il y a déjà bien longtemps. Mais oui, il y en a énormément, et t'as aussi le système. Donc t'as soit les figurines que t'achètes non peintes. Et tu dois les peindre, et ça tu sais ce que tu as. Et puis le système de loterie où tu ouvres des paquets comme les paquets Panini là, tu sais, pour collectionner.
Oui, ça c'est fou. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé aussi le plus dingue, c'est que t'as cette espèce de. Parce que normalement, pourquoi est-ce que t'achètes une figurine ? T'achètes ta figurine parce que elle doit avoir. Ça va être une transposition physique de ton jeu. C'est-à-dire, la figurine, elle a un but. Et là, t'achètes une figurine. Et tu sais pas la figurine que tu as, et tu peux très bien avoir des doubles. Et c'est ça que j'ai beaucoup de mal à imaginer.
Techniquement, t'achètes pas une figurine, t'achètes un pack qui en contient 4-5. Mais des fois, tu te retrouves avec beaucoup de doublons. Alors, si t'as de la chance et t'as des gens près de chez toi qui ont aussi des figurines comme ça, tu peux peut-être échanger. Mais il y a beaucoup de gens, même aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est que ils se tentent pas la loterie, on va dire ça. Mais ils rachètent les figurines dont ils ont besoin directement à des revendeurs. Tu sais, les gens, ils ouvrent les boîtes et puis en fait, ils les listent sur leur site internet et tu les achètes à la pièce. Oui, en général, les grosses créatures et les rares, tu payes plus cher que les gobelins que t'as eu 15 fois dans ton kit, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, et puis en fait, t'imagines quand t'as des doublons sur. Alors que si c'est des gobelins, ça peut aller, mais quand c'est pas des créatures. T'es super content d'avoir le même magicien un paquet de fois. Parce que c'est ça que j'ai trouvé très. Je me disais à chaque fois, je dis, mais attends, on nous parle tout le temps du virtuel, et on voit ce marché qui est plus que florissant. C'est comme les dés, hein. Alors que le virtuel gagne tout le temps, on n'a jamais eu autant de. Je dis ça, je parle pour un ami, hein, mais on n'a jamais eu autant de dés qui sortent et qui sont la représentation même du jeu de rôle, mais dans son aspect physique, loin du clic que tu peux faire à 3h du matin pour lancer. Et puis, pour terminer sur les figurines, c'est que non seulement il y a les figurines, mais il y a les dioramas. C'est-à-dire que pour un prix, il faudrait rechercher sur un parchemin magique, mais tu as quand même l'auberge du portail béant qui a été produite en figurine. Et puis elle est pas petite, hein. C'est massif. Hein. Il y en a qui disent les Lego ça prend de la place, mais quand tu vas dans les grosses boutiques, tu vois la taille des boîtes.
Ah oui.
WizKids pour les décors. C'est impressionnant.
Oui, et puis effectivement, les décors, c'est, ça, c'est des trucs qui doivent venir cher parce que bon, c'est grand, hein, et forcément, c'est pas non plus forcément les plus populaires, et donc tu vas te retrouver éventuellement qu'avec qu'un certain type de personnes que ça va intéresser, et donc tu vas en vendre moins globalement, donc c'est aussi ça qui fait grimper le prix. Mais ouais, c'est beaucoup de choses comme ça, d'acheter des figurines et les décors qui vont avec pour encore plus d'immersion. Et encore après, si tu t'amuses à mettre des LED dans certains de tes décors, tes torches, oui, et tout, il y a de quoi s'amuser. C'est un autre hobby, hein, c'est un autre hobby en soi.
Alors, par exemple, là, je suis avec mon parchemin magique, je suis sur le site de WizKids. Donc, c'est. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Icons of the Realms. Donc, c'est le label, hein, des figurines. Alors, par exemple, très difficile de trouver les Ravenloft, hein, c'est bien entendu.
Mais ça aussi, hein, c'est-à-dire que les vagues de figurines sortent, et une fois que la vague est sortie, pour les retrouver après, bonne chance.
Donc, voilà, d'où une certaine spéculation. Bon, bah, là, je suis sur le site officiel, hein, de WizKids. Bah, le icon, donc l'auberge. L'auberge est en solde en ce moment. Elle est en solde à $175. Et le prix initial, c'était $350.
Eh oui, ça c'est...
Moi, pour moi, je me rappelle, j'en avais vu à $400. Et c'est là où tu te disais que dans l'économie Donjons et Dragons, t'achètes ton supplément Curse of Strahd, parce que c'était le cas... Enfin, non, t'achètes ton supplément... donc là, c'est... Vol des Dragons. Donc Dragon Heist. $50. Et tu regardais le prix que tu payais pour si tu voulais prendre des figurines qui correspondaient à chacun des personnages que tu rencontrais ou chacun des lieux, parce que tu as aussi des figurines avec des dioramas, avec les rues et tout ça. Là, t'imagines, là, il était à $350. Tu pouvais acheter 7 fois le scénario. Tu comprends que c'est pas effectivement dans ton pauvre scénario que tu vas gagner, que Wizard va gagner de l'argent.
Après, en soi, faut pas oublier que tu le disais, c'est WizKids, c'est pas Wizard, donc ils ont.
Oui, il y a la licence qui va dedans, c'est pour ça.
Oui, donc allez, imaginons qu'ils prennent 20% du prix initial. En soi, ça fait pas tellement de sous pour eux, ça en fait plus pour WizKids et autres. Hein. C'est ça quand tu as des licences, et c'est peut-être pour ça justement qu'ils veulent mettre en avant leur côté virtuel sur D&D Beyond et D&D Beyond Only, c'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent tout, quoi. C'est tu achètes chez eux, il n'y a pas de entière ou ils travaillent pour eux, donc il y a des autres contrats, mais ils ont la plus grosse part du gâteau, on va dire ça.
Tout à fait. Regarde, tu vois, pour je reprends juste pour l'auberge, elle était donc à la base à $350. Il faut savoir qu'il y a eu 3 boîtes qui ont été faites. Donc tout d'abord, tu as les clients qui sont plutôt sympas. Ensuite, tu as un set qui est uniquement beds and bottles. Donc c'est les lits, t'as des lits, t'as des tables, t'as des chaises, et t'as en fait tout ce qu'il faut pour faire le mobilier de ton auberge. Et puis après, tu avais l'autre, et là tu avais, t'en avais un autre avec que des, là c'était bars and bottles. Donc en gros, tu avais, alors chacun de ceux dont je parle, c'était $50. Donc t'en avais pour $500 si tu voulais animer le tout.
Ça fait beaucoup. Et encore, je pense en termes de figurines qu'ils avaient sorti, à un moment ils avaient fait un truc comme les Warhammer en grappe. Comme ça, sur je sais plus c'était quoi, il y avait plusieurs créatures qui avaient fait ça. C'était un truc très, très limité, mais c'était sorti dans certains supermarchés aux États-Unis et ça coûtait plus cher que du Warhammer, ça, et même plus cher que les figurines. C'était quasiment le double de certains trucs. Et là, ok, ouais, c'est bien, mais pour le prix, personne, j'ai vu personne trop en acheter. Et puis on n'a plus revu après la première vague, je pense, donc ça a pas très bien fonctionné.
Mais c'est ça qui est... C'est notre émission, c'est sur le virtuel et donc le virtuel, j'allais dire le réel, le virtuel et le présentiel. On voit quand même que voilà, Hasbro abreuve des deux côtés.
Oui, pour l'instant, encore pour l'instant, j'ai envie de dire, hein, petit présage éventuellement pour les autres éditions ou dans les prochaines années, c'est quand tu vois aussi ce qui se passe et l'angle qu'ils prennent, tu vois que le physique, il commence à se détacher, et même ici, quand ils te vendent un bouquin sur D&D Beyond, ils te forcent un peu à prendre le pack physique et digital pour avoir le contenu X semaines à l'avance, ou en tout cas, si tu prends les deux, ça te revient quand même moins cher que si tu l'achètes après séparément. Donc t'es tenté de prendre les deux, et peut-être que tu joues plus facilement en digital, ou tu lis plus facilement en digital en premier, vu que tu l'as en avance. Mmh. Et c'est pour t'habituer éventuellement à consommer de cette façon-là.
Bah, c'est alors, pour moi la grande force, hein, la grande force, c'est un, le brouillard de guerre, qui est quand même effectivement quelque chose qui est un énorme gain de temps, même si je l'avais déjà dit, mais pour ma part maintenant je m'embête plus à cacher les cartes. Les joueurs ont la carte, parce que de toute façon, ok, t'as la carte, mais tu sais pas où est l'adversaire, donc ça te change pas énormément. Et je sais que en gros, quand je joue et qu'ils arrivent dans un endroit, je me suis arrangé pour imprimer la carte, je leur montre. S'il y a un passage secret, bon, ok, il découle le passage secret. Est-ce que ça retire à la partie, à l'ambiance de la partie? Non. Et ce que je trouve très bien, c'est. Tu vois, toute cette espèce de petite gestion, où sont tes sorts, les sorts que tu as, et puis.
L'argent, points de vie.
Bon, l'argent que tu as, les points de vie qui sont soustraits automatiquement, et les dés. Mais c'est vrai que. Voilà, lancer les dés, ça fait quand même partie de ce plaisir. Je connais des joueurs, hein, qui ont leur compte Roll20, mm-hmm, et qui jouent avec. Il y a un PC qui est sur la table, et le PC. Le PC, il va résoudre les combats, et c'est beaucoup plus rapide quand il est très tard. Alors c'est encore mieux quand tu joues à Pathfinder, je pense, mais c'est vrai que t'as quand même cette grande rapidité, et puis les dés tombent pas sous la table.
Tiens, en parlant de dés et tout cela, tu sais que sur D&D Beyond, ils te vendent des skins de dés, donc des dés alternatifs, donc t'as un dé par défaut, et puis tu peux acheter des dés supplémentaires.
C'est
avec
ce qu'avait fait Let's Roll.
Ouais.
Je t'avoue que je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Ce que je me dis.
Et c'est aussi un des trucs de leur abonnement, c'est-à-dire que tu as X trucs par mois, dont un skin 2D exclusif du mois, et t'as un peu ce truc-là de manipulation. Pas manipulation, je veux dire, mais tu sais, la FOMO là, où tu fais ouais. Ah, je vais pas arrêter mon abonnement parce que, et ça se trouve, t'as pas joué depuis 3 mois.
Ouais, non, mais oui, bah c'est ça. Et alors surtout en plus que. Quand Wizard était encore en licence avec Gale Force 9, on avait quand même des sorties qui étaient extérieures à Wizard en soi. Alors, il y avait les écrans qui sortaient.
Oui, les écrans à chaque fois pour chaque grosse campagne.
Oui, là, pour chacun, alors qui était du côté maître de jeu, qui était plutôt pas mal parce que c'était bien pensé. En revanche, du côté joueur, ils ne s'étaient pas embêtés, puis surtout il y avait t'avais un tiers de l'écran qui était pris par une espèce de grande bande blanche où c'était écrit le nom du scénario. Et voilà, c'était pas énorme. Ils ont fait les cartes de sorts,
oui,
qui étaient quand même là pour le coup quelque chose que je trouvais vraiment bien. Ils ont fait les cartes en vinyle des différents endroits. Et là aussi, bah, finalement, c'est ce qui rajoutait en plus, hein, quand tu l'achetais. Et ils avaient fait les dés, et il y a eu, je crois, 3 ou 4 kits de dés qui sont sortis. Moi, pour ma part, j'ai Witchlight, et puis j'ai Rhyme, où ce qui est plutôt bien, c'est que c'est une petite boîte. Les dés, il y a le nombre, il y a un nombre qui est assez généreux. Il y a les 2D20, il y a 5D6, ou 5 ou 4D6, je ne sais plus. Et puis là, l'intérieur du sommet de la boîte, c'est en velours. Et surtout, c'est que tu n'as pas que les dés, tu as des petites cartes qui sont en rapport avec le scénario. Tu as même les cartes physiques, hein, des endroits que tu vas explorer.
Mais t'es sûr que c'était que Galfondine qui avait fait ça, et parce que j'ai quand même l'impression qu'ils avaient continué après qu'ils avaient fini leurs accords avec.
Ah bah, ils ont continué sur les contrats, mais il n'y en a plus du tout. Pour moi, il y a eu. Il y a eu Leria Silverhand, il y a eu
Descente en Averne, ils en ont fait un aussi.
C'est possible aussi.
De mémoire.
Et si tu veux, quand les derniers, il y a pas eu Curse of Strahd.
Mais ça c'était avant. C'était peut-être
ouais,
avant.
C'était avant. C'est pour ça que tu vois tout n'a pas été. Tu vois, donc là je trouve sur un autre parchemin magique hein, j'ai Rhyme, mais alors le truc c'est des versions qui sont alors pour voir si c'était bien du GF9. Donc voilà, donc il y a l'Explorer Kit l'Explorer Kit qui lui était pas en rapport avec un scénario. Non, c'était éditeur Wizard of the Coast visiblement. Mais c'est pareil, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté de faire ça. Alors ça poussait effectivement la consommation, mais ça poussait la personnalisation assez loin.
Oui. Après maintenant c'est impossible à y trouver. Hein. J'avais déjà vu un message récemment. Ah je cherche tel truc. Ah bah bonne chance.
Oui non
bonne
mais chance, mon coco. C'est ça. Et c'est pour ça que on parle de ce repli sur le virtuel. Alors tiens. Attention, parce que là j'ai un parchemin magique qui vient de. Là il y a Finn qui vient de me faire un signe. Et alors là on tourne donc ce mercredi soir. Eh bien la présidente de Wizard of the Coast, Cynthia Williams, quitte ses fonctions à la fin du mois.
Ah
bah, ça ouais. Vient quasiment de tomber.
Bah, en même temps, quand tu vois les dernières news qui sont apparues sur D&D et tout cela, c'est pas voilà. On fait pas un épisode comptoir, donc on va pas parler trop de l'actualité.
Oui, non, mais c'est ça, c'est marrant, c'est tout bien parce que justement, on allait parler de cette espèce de, il y a moins de produits physiques, tu vois, il y a plus ces petits trucs à côté, et on arrive vers du virtuel qui est de plus en plus présent.
C'est ça, c'est-à-dire que on a tout qui est découpé, ton bouquin, tout cela. Et je pense qu'on va avoir quand même, même si tu parlais de tes figurines, hein, tu vas les retrouver, s'ils font finalement le moteur 3D, tu vas les retrouver en ligne tes figurines, à quel prix ça faut voir. Et je me demande vraiment hein, s'ils feront les fameuses lootbox en vrai, hein, avec les ouvertures random, ça c'est encore une possibilité, hein, ça fonctionne bien. D'ailleurs, ce qui fonctionne bien en ce moment chez Wizard, là, c'est Monopoly Go. 2 milliards quand même. Hein.
Oui.
Donc, est-ce qu'un petit D&D Go là, est-ce que ça se tenterait? Mais voilà, pour parler globalement, on attend de voir ce que ça donne sur D&D Beyond. Mais je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de parler peut-être maintenant en ligne, de la façon dont on joue en ligne, comment on trouve son groupe, éventuellement quelques expériences de jeu en anglais hein, que j'ai pu faire. Et. Qu'est-ce qu'il faut éviter éventuellement? Ça sera bien de voir ça ensemble. Donc, Mathieu, est-ce que tu as, toi, déjà joué en ligne comme ça
J'ai déjà joué en anglais. Mm-hmm. Très bon souvenir en Australie. J'ai déjà joué donc, en anglais, mais j'ai jamais joué en ligne autrement que dans le Covid, pendant le Covid, ou puis après une ou deux autres parties. Je t'avoue que c'est assez frustrant de pas forcément voir mes joueurs.
Mmh.
Et puis surtout, c'est qu'il y avait j'étais dans des conditions. C'est quand j'ai quelqu'un qui me dit, tu dis que tu fais ta description, puis t'entends, tu peux répéter, ça a sauté au milieu. et là, je t'avoue que ça m'a tellement refroidi et tellement marqué que tu fais, voilà. Donc, je suis pas allé plus loin que ça. Après. J'avais fait quelques parties avec uniquement deux joueurs, ce que je trouvais bien, parce que tu vois, il n'y a pas trop de monde et tout cela. Mais pour ce qui est de Donjons et Dragons, non.
Ok, donc j'ai jamais joué Donjons et Dragons comme ça. Bah, tout simplement, vous avez la vie facile si vous cherchez à jouer à Donjons et Dragons. Et surtout si vous cherchez à jouer à Donjons et Dragons en anglais. Alors tout d'abord, on l'a dit en préambule, c'est que c'est quand même le jeu le plus joué par Internet, clair et net. Et en anglais, encore plus. C'est-à-dire que tu vas chercher ta petite game. Chez nous, sur les forums, il y a différents endroits. Hein. Tu peux voir qu'il y a soit les campagnes ou one-shot, ça aussi. Ou unitaire. Voilà, Mathieu. On va utiliser le terme français.
Merci.
donc, tu regardes un peu, en général, c'est annoncé campagne unitaire, de savoir ce qui est proposé.
Et souvent, t'as quand même une petite description. C'est toujours mieux quand t'as quand même plus d'infos que juste, D&D, telle édition, ça aussi. Hein, parce qu'il y a des gens, ils jouent encore d'anciennes éditions.
Oui,
3.5, à D&D, tout cela.
Voire même là, 1. Voilà.
Oui, voilà. Ou même des gens, ils font, ah tiens, j'ai joué qu'en 5e, je testerai bien. Et puis, bah, c'est le bon moment pour tester, ça aussi. Donc, c'est des fois des opportunités
le
que
taco.
Tu...
voilà.
Donc c'est des opportunités que t'as pas forcément comme cela. Et en anglais, faut faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, c'est tu regardes le time, les créneaux horaires.
C'est-à-dire que c'est important. Oui.
Oui, souvent tu te retrouves avec des games, bah c'est les Américains. Et forcément, tu as soit côte est, côte ouest, et bah, pour toi, c'est jamais les bonnes heures, hein, en soi. Bon, moi, de mon côté, vu que je suis freelance, je suis à la maison, je peux me permettre, limite,
oui.
Si c'est l'après-midi ou le matin, si je me lève tôt, mais je me lève pas souvent tôt, donc ça, c'est un petit souci. Mais j'ai un peu plus de choix comparé à cela. Mais sinon, si tu prends les heures un peu européennes, et même si tu joues en anglais, au final, tu vas te retrouver avec des gens qui parlent aussi anglais. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, maintenant, ont l'anglais en tant que seconde langue ou troisième langue. Et c'est assez facile. Et faut pas avoir peur. Franchement, moi qui suis pas super fort pour parler en anglais, je comprends, hein, je comprends énormément de choses. Mais pour m'exprimer, c'est toujours un peu difficile, hein, le manque de pratique, hein, très certainement.
Tout à fait.
Et là, quand on t'entend que les trois quarts du groupe ont un accent néerlandais, un accent germain, tu es là, ça va, il n'y a pas d'anglophone naturel, donc ça décomplexe quand même.
Oui, parce que c'est pour ceux qui veulent tenter leur chance à des jeux comme Donjons et Dragons, il y a plusieurs choses. L'avantage du... Enfin, la principale difficulté, précisément, c'est tout ce qui sera, alors si tu joues dans des jeux un petit peu classiques, hein, c'est de savoir exprimer tout ce qui sera au niveau des mouvements et de savoir du vocabulaire un petit peu précis sur des nuances de manipulation. Tu sais, est-ce que tu touches, est-ce que tu touches pas, est-ce que... Ça c'est là, ou dans la description des lumières, ici de flashing, glowing et tout ça. Quand on est en distanciel, comme on a devant soi la carte, c'est beaucoup plus facile, en fait, de dire je fais ça, je vais voir ça, on fait un ping quelque part, et ça permet de bien voir. Et en plus, si ton accent est pas phénoménal, ou si tu veux être sûr, tu fais apparaître l'équivalent d'un petit post-it sur l'écran, et tu mets tout simplement... Si tu mets un mot, voilà, comme ça, tout le monde est sûr que t'as bien. Enfin, soit tu prononces pas bien. Ça. Mais ça demande quand même, à certains moments, des concentrations.
Oui, oui.
Surtout quand tu dois faire des interactions sociales et que le mec en face est à quelques niveaux de plus que toi.
C'est pour ça. Petit conseil, si vous jouez à D&D, vous galérez peut-être un peu ou pour vos premières games, c'est ce que j'ai fait. Deux fois, mes deux premières games, j'ai joué un barbare. Je me suis fait, je reste dans le fond, je tape et je pousse des cris et on me demande pas trop d'interagir et il n'y a pas de souci vu que je maîtrise bien les règles et tout ça, bah je peux avoir une discussion assez bien portée sur les règles, mais quand il s'agit de roleplay son caractère, son personnage, tout de suite ça devient plus compliqué et c'est vrai que par la suite j'ai fait des personnages plus complexes. Et c'est vrai que tu galères un peu plus parce que tu dois réfléchir dans une autre langue et essayer de roleplayer ton personnage d'une certaine façon et ça rajoute un gros niveau de difficulté. Mais voilà, si vous n'êtes pas sûr, commencez à faire des personnages soit asociaux. J'avais fait un elfe noir, il adressait la personne, il s'adressait presque à personne, il restait dans son coin, il mettait sa capuche quand on lui parlait, tu vois. ça évite, hein, voilà, il y a des petites...
C'est sûr, hein, que quand tu joues en virtuel, un des plus difficiles, ça sera tout ce qui sera le lanceur de sort. Parce que généralement, t'es plus dans l'interaction orale, et puis tu sais, je lance tel sort, puis déjà faut que tu comprennes, enfin que tu comprennes bien si ton sort marche bien. Puis t'as des sorts Hell of Thorns. J'en rigole toujours avec le joueur avec qui je jouais, parce que des fois il y a des sorts qui sont super durs à prononcer en
En général, quand tu joues en VTT comme ça, pour la facilité des autres joueurs ou même du maître du jeu, c'est que tu appuies sur un bouton qui fait apparaître le sort dans la fenêtre de chat de messagerie. Et comme ça, tout le monde a accès au sort et le maître du jeu, il voit exactement quel sort tu lances et aussi quels effets ça a. Parce que souvent, les joueurs lisent mal les sorts. Et à ce moment-là, t'es obligé, ah, c'est quoi tel sort ? Et toi, en tant que maître du jeu, en vrai, t'es obligé d'aller chercher dans ton bouquin, ou si tu le connais pas par cœur, voilà, tu te poses quand même la question. Tandis que là, ton joueur le lance, tu fais appuie-moi sur le bouton, et comme ça, tu le vois directement.
Alors, ça, c'est, chercher. Je trouve, un énorme avantage. Et puis d'ailleurs, on se rappellera que dans l'OGL, tu sais, la mouture qu'ils avaient mise, c'était qu'ils expliquaient que les... C'était quoi ? C'était que les effets spéciaux qu'on trouvait sur des VTT.
Ah oui, oui, les explosions, les machins en fait, comme ça.
Voilà, ils pouvaient avoir des droits de suite, ça imitait trop. Enfin bon, c'est. Mais c'est aussi un énorme avantage. Hein. C'est quand même. Parce que je reviens sur mon Hell of Thorns. Il faut le trouver, faut bien le prononcer, bien le dire. Et puis il faut aussi le comprendre. Puis il y a des trucs. Et puis il y a un truc qui est aussi. Mais alors, tout bête. Je reprends sur les cartes de sort, bah c'est écrit petit quoi. C'est écrit super petit et t'as quand même beaucoup moins quand t'es sur un écran, beaucoup moins mal aux yeux. Tu peux agrandir, tu peux faire du zoom, ça c'est un avantage.
Puis je pense qu'en français on est un peu mal loti vu que c'est une langue qui prend beaucoup de place.
Oui.
C'est-à-dire que les cartes, à mon avis, elles ont été souvent pensées peut-être pour l'anglais. Et même en anglais, t'as certains sorts, il y a tellement de descriptifs que t'as besoin de deux cartes limite.
Oui, parce que je crois, de mémoire. Hein. De mémoire, les sorts les plus longs, je crois qu'il donne la page du Players pour rejouer. Je crois que c'est parce qu'il y avait eu Héros et Dragons qui avaient sorti des cartes, mais ils avaient mis l'intégralité des sorts dessus. L'intégralité du sort. Donc, ouais, t'avais une espèce de tartine qui était. Et puis il y avait un côté magique, c'est-à-dire que plus la soirée passe, plus c'est cryptique.
Et au moins, il y a de lumière peut-être.
Allume une lampe. Non, puis c'est. Et c'est là aussi que tu te rends compte que tout le monde vieillit un petit peu. Moi, c'est un. Enfin, on en avait tous rigolé. C'est qu'il y avait eu. Ils avaient sorti quasiment tous. Alors, chacun avait un truc à lire et tout le monde, tu voyais, pencher un peu la tête en arrière et puis avancer le bras et étendre le bras. On était tous comme ça. Et on était là. Ah, franchement, voilà. How the mighty have fallen, comme dit le poète, hein, comme que les puissants ont chuté. Et. Mais c'est un des points, et on en parlait de cette transition tout VTT. Alors ça faisait partie de nos petits paris, c'est que quand est-ce que nous aurons le premier supplément qu'on qualifiera majeur de Donjons et Dragons qui ne sera disponible qu'en PDF.
Oui, c'est ça.
Ce jour-là, effectivement, il y aura vraiment eu un pas.
Ouais, bah je pense prochaine édition, Mathieu. Je pense.
Oui,
que
je pense parce que comme tu le sais, je suis c'est pour ma petite fille que je l'ai fait sur le Lego Donjons et Dragons. Ça m'a fait pas mal réfléchir à ce qu'on disait. Et Wizard veut un way of life Donjons et Dragons.
Oui, clairement. Oui.
Tu sais, j'étais là en train de faire mon Lego Donjons et Dragons. D'ailleurs, ma petite fille a renversé un verre d'eau sur les notices de montage qui ont toutes pris l'eau. Enfin bon, voilà. Et tu vois, il y a les Converse Donjons et Dragons. Il y a d'autres vêtements de mode, là, Donjons et Dragons, qui sont sortis. On a ce mode de vie et finalement tu dis dans cette espèce de mode de vie un peu moderne qu'on veut te donner, c'est devant un écran que tu pourras trouver ton Donjon et Dragon et pas forcément avec des vrais papiers.
Après c'est pas plus mal aussi parce que ça te permet d'expérimenter un peu autrement, étant donné que ici, comme petite anecdote, j'ai pu jouer une campagne, on va dire ça quand même, on a joué quelques games ensemble. Il y avait donc c'est un mixte, hein, c'est vraiment un mixte. Le maître du jeu, il était du Kazakhstan. Un des joueurs était de Thaïlande. Un autre était d'Australie ou Nouvelle-Zélande, je sais plus maintenant.
Il y en a même deux qui étaient d'Australie. Oui, c'est ça, c'est deux qui étaient d'Australie.
Et là, t'étais sur quelle plateforme, donc? T'étais sur...
J'étais sur Roll20. Mm-hmm. Et ça aussi, pour trouver ma game, j'avais dû quand même chercher bien. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est d'aller écumer les Discords. Les Discords, pas forcément... Enfin, ça dépend officiel ou pas. Ça dépend quel type de game tu veux avoir aussi. Parce que quand tu fais ta recherche, un des gros, gros trucs qu'il y a, c'est que la majorité des gens, comment ils s'expriment sur Internet, et surtout en 2023-2024, hein, mm-hmm. c'est que tu as une forte tendance à être politisé d'un certain spectre ou un autre.
Oui, d'accord.
Et donc ça s'affiche assez quand tu regardes les parties, c'est-à-dire que tu vois exactement dans quel type d'ambiance tu vas tomber en général, mm-hmm. ou tu peux être là en mode « est-ce que je vais rejoindre ce groupe ou pas ?» Enfin, voilà, tu as un peu déjà la couleur affichée à l'annonce.
Ouais, non, mais tout à fait.
C'est à toi de faire attention à ça aussi.
Et c'était quoi la moyenne d'âge de ces personnes?
Entre 20 et 30 ans, je pense.
Ouais.
C'était, enfin, ceux que j'ai joué avec moi. Après, tu trouvais plutôt des jeunes, c'est vrai. Et beaucoup de gens qui veulent s'essayer une première fois à Donjons et Dragons, parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, ils veulent jouer, mais ils savent pas comment faire. Et puis, les clubs, il y en a pas partout, forcément.
Oui, c'est ça, c'est.
À l'heure actuelle, Internet fait que tu peux facilement rejoindre un truc, et puis pour un one shot ou une unité.
Mais ça, je trouve ça génial. De toute façon, ça a toujours été la composante de. Du jeu de rôle, c'est ça a l'air génial, mais je peux pas y jouer tout seul, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et tu vois, on avait déjà parlé de la boîte, de la deuxième boîte d'initiation, la Essentials, qui était sortie aux États-Unis, où dedans il y avait le sidekick, donc l'acolyte qui revenait, et c'était fait pour dire qu'en gros, il y avait vous avez besoin que d'un joueur AMJ. Et c'est tout, parce que le système des acolytes fera que ça va compenser et pallier le peu de joueurs qu'il peut y avoir. Et ça, c'est une belle chose. Et moi, quelque chose que je trouve super, quoi, de pouvoir être avec autant de personnes. Et dans cette espèce de virtualisation de Donjons et Dragons, bah, c'est vrai que tu vois, je regarde mes vieilles antiquités, c'est est-ce que dans 10 ans on aura, je parle sur le marché anglais bien sûr, les mêmes prix qui vont augmenter d'un supplément de la 5e? Je suis pas certain.
Je pense que ça augmentera à un moment ou à un autre. De toute façon, moi, je le vois.
Enfin, ça a augmenté déjà. C'est à $60.
Oui, voilà. Déjà, il n'y a rien que ça, l'inflation de base. Et puis même, je vois avec des jeux type Game Workshop Warhammer. Donc, pas jeu de rôle. Hein, le jeu de figurine. J'entends quasiment toutes les éditions. Tu as des gens qui recherchent. Donc, il y a eu beaucoup d'éditions. Hein, je pense qu'il y a eu 8 éditions totales. Maintenant qu'ils ressortent justement le Old World, donc les figurines, elles sont en redemande, ou même certains codex, ce genre de choses, les gens pour la collectionnite, c'est une grosse demande, quoi. Tu vois certains prix.
Mais est-ce qu'on peut pas se poser quand même la question, c'est que la 5E, je parle bien sûr de l'anglais, il y a pas de suppléments qui sont introuvables. Je veux dire, ça a été abreuvé sur Amazon, ça t'en a...
Ils ont retiré le volo quand ils ont sorti le multiverse.
Ah d'accord, ok, ouais, c'est vrai, tu as raison, ouais, tout à fait.
Ça aussi, et il y avait un autre, Tomofo aussi, c'est les deux, ils ont été supprimés de la gamme pour remplacer.
Ouais. Par, effectivement.
Monstre du multiverse, ça, il y avait eu ça. Après, il y en a certains, Tiamat a été republié. En
oui,
coffret.
Tyranny of Dragons.
Bon, ça c'est pas vraiment voilà. Après, tu as eu certaines choses qui ont été publiées en anglais. Hein, on entend.
Oui, on parle bien anglais, parce qu'en français, on a une.
Oui, il y a une grosse demande sur certains.
Il y a une, ouais, une spéculation de fou sur en fait tout ce qui était BBE.
Ouais.
Et j'ai vu effectivement des suppléments qui passaient à 120 €, quoi. À 120 €, et c'est vrai que c'est. C'est pour moi, je pense, les jeux qui valent, enfin, dernièrement, les jeux qui cotent le plus. oui. qui cote le c'est, plus.
C'est pour ça que tu te dis aussi, au final, c'est dommage que D&D Beyond et tout ça, ils ont gardé qu'en anglais et que ça n'a jamais été traduit à part le ESRD récemment. Donc on parle de août dernier, hein, ils avaient sorti le ESRD en français, donc la base de traduction du système en français. Et il n'y a rien d'autre qui a été traduit dans les autres langues. J'espère pour la prochaine édition, ils feront un effort quand même. Parce que, regarde ce côté digital, tu as besoin d'avoir le jeu qui est plus disponible pour X ou Y raison, parce qu'ils n'ont pas fait assez de tirages, parce que ça s'est super bien vendu et ils ne refont pas d'autres tirages. Et avoir ce côté digital, il y en a autant que tu veux. À moins que tu commences à créer vraiment le côté « Ah, on limite du digital », ça c'est déjà vu. Hein,
j'ai une question, parce que moi je n'ai jamais fait. Quand je prends mon... j'achète mon truc numérique sur D&D Beyond. Est-ce que c'est un c'est mis dans une bibliothèque et je ne peux le consulter que sur cette bibliothèque, donc ça veut dire que Wizard, si un jour ou un autre veut le retirer, il le retire, ou est-ce que c'est un format de PDF que je peux utiliser sans DRM sur tous mes appareils?
Alors, j'ai pas envie de te dire de bêtises.
D'accord.
Je sais que les fiches, tu peux les sortir.
Ouais.
Par contre, les documents, je pense pas que tu puisses les sortir, donc tu es obligé de les consulter sur le site.
Ouais, c'est ça, je pense.
Oui.
On a avec DM's Guild, là, on a effectivement du PDF.
Oui. Hein, c'est du PDF, oui. Ouais,
voilà, c'est du PDF, mais voilà, pas sur le... pas le reste. De toute façon, on reparlera, bien entendu, de cette nouvelle édition et de ce qu'on... et de ce qu'on peut en attendre.
Oui,
oui voilà. Je crois que j'ai rarement été aussi dans l'expectative que, enfin, autant dans l'expectative pour la sortie d'un jeu et surtout pour une édition qui est une continuité.
Bah c'est un peu moi je vois ça, j'ai vraiment l'image du train. Tu le vois arriver, hein. Tu le vois arriver de plus en plus là, hein. Et puis tu fais, il va dérailler ou pas? Il va dérailler ou pas?
Ouais,
c'est un peu malsain aussi, tu vois.
C'est... Mais... De toute façon, on fera cette émission sur la 7-6ème, enfin sur cette 5-5. Mais en fait, moi, c'est même pas tant l'édition, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, quoi.
Oui, ça aussi. Et tant qu'on est un peu sur l'épisode en ligne et tout ça, j'avais envie d'évoquer le sujet de l'équipement. C'est-à-dire que si vous voulez pas rencontrer des gens en vrai, les voir, forcément vous exposer, ça aussi, ça peut être un bon moyen. Parce que y a pas beaucoup de games de parties qui demandent d'avoir une webcam. C'est rare ou c'est optionnel. En général, c'est optionnel. J'ai joué quasiment toutes les parties que j'ai fait sans avoir besoin de brancher ma webcam ou ma caméra.
Et t'entendais les gens qui tapaient sur leur clavier ?
Ça, par contre, c'est mon deuxième point. C'est-à-dire, investissez tous dans un bon micro et évitez d'avoir les gosses juste à côté de vous. Ou dans le salon, ou tu joues dans le salon de famille et tout ça. Parce que ça aussi, c'est dur à trouver. Donc les gens qui respectent un peu tout, mais qui peuvent aussi, parce que malheureusement, des fois, tu peux comprendre qu'ils n'ont pas la facilité de cela. Mais si tu veux jouer en ligne et que tu veux avoir une partie correcte, il faut quand même prendre quelques conditions, acheter un micro correct et essayer d'avoir une pièce où vous êtes seul, quoi.
Moi, c'est vraiment une des choses qui me... Alors, évidemment, ça déborde du cadre de Donjons et Dragons, mais... tu sais, alors, tous les jours... Je me retrouve à donner cours à des étudiants et puis à chaque cours quasiment, je dis à un ou un autre, puis que j'aime bien en plus, hein, mais que je dis vous rangez votre portable. Et si tu veux, moi il y a les deux choses qui me horripilent, moi aussi hein, je suis quasiment que maître de jeu, c'est quand tu parles, hein, tu t'adresses à un joueur et que tu as cette espèce de temps de décalage, et le temps de décalage il est dû au fait qu'il était en train de regarder autre chose. Oui. Qu'il était sur son écran ou sur un écran de téléphone, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est quand tu entends le bruit de clavier d'un des joueurs et tu sais qu'il n'est pas en train de taper sur il n'est pas en train de taper quelque chose qui est en rapport avec la partie.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est quelque chose. Enfin, ce qui est quand même génial dans le jeu de rôle, c'est qu'on est coupé. On se met dans un monde qui est fait de mots, on est dans un ailleurs qui n'existe pas. Et c'est comme quand on va au cinéma. Et là, soudainement, le fait qu'il y ait cet écran et ce multitâche qui soit possible, Tu réponds, tu sens très bien que des fois il y a des gens qui vont répondre à des mails ou des choses comme ça, alors qu'en partie ils ne le feraient pas, en partie présentielle.
Oui, après tout dépend. Je peux comprendre dans le combat, tu sais, quand t'as le combat, tu viens de jouer, tu fais bon, j'en ai pour une demi-heure, je ferai peut-être autre chose ou quoi, tu t'écoutes vaguement. Bon,
oui, pour le combat, je comprends. Oui.
Mais tant que la personne assure derrière, hein, c'est-à-dire que tu fais ton multitasking, mais quand je te dis Mathieu, c'est à toi, t'as intérêt à être prêt.
Oui, non, il y a non pas mais de, c'est ça.
Ils ont bougé
mais
ceux-là.
Après, c'est des choses qui m'agacent aussi quand je suis en présentiel. Hein,
oui.
Pour certaines parties, j'ai des joueurs qui, tu sens comme c'est pas eux, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur téléphone et c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point parce que faire du jeu, c'est drôle, c'est être tous ensemble. Alors, bien sûr, hein, quand on était plus jeune, ce qui se passait, c'est qu'on. Il y avait des discussions qui étaient hors partie, qui étaient autour de la table, bien entendu. Mais ça, c'est un des points ouais, qui a tendance à m'agacer. Mais c'est un. Mais après, bon, c'est encore une fois, c'est au-delà de Donjons et Dragons.
Oui, c'est du comportement. Et ça aussi, c'est un des points aussi à souligner pour le jeu en ligne. S'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange dans le comportement des autres joueurs que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à partir. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, ils jouent en ligne parce qu'ils n'ont pas le choix de jouer en ligne avec des inconnus. C'est-à-dire que c'est des gens, comportement civil, zéro. Et les pires histoires en général que tu entends, moi je lis souvent, ça me fait marrer, les histoires un peu d'horreur de joueurs de jeux de rôle. Et c'est souvent D&D, forcément. Toujours oui. D&D. donc c'est toutes les histoires malsaines où t'as les gens ils se révèlent être un peu bizarres ou faire des choses en pleine partie, t'es là tu fais oulala. Mais bon
oui.
Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis aussi des fois ça peut arriver quand tu joues en ligne, c'est que t'es en pleine campagne et du jour au lendemain le MJ pète un câble ou un joueur pète un câble et la table saute sans autre forme de mesure. Donc
Quand tu joues en présentiel, tu utilises des liens qui sont différents, bien entendu. Mmh. Et alors des maîtres de jeu qui font n'importe quoi et trucs comme ça. Voilà, je peux dire que quand je suis arrivé à Rouen, j'en ai rencontré. J'étais atterré. Des mecs qui s'engueulent, j'étais atterré. Je me rappelle tout le temps du mail que je reçois. Mmh. Je me suis engueulé avec un tel, donc je jouerai plus. T'étais, voilà, bon. En même temps, ça filtre. Hein. Mais c'est vrai quand ça a tendance à être plus présent, enfin c'est plus facile de faire par l'acheter quand t'es dans du distanciel, de dire de toute façon c'est des personnes que je connais pas, je sais pas qui c'est, je les bloque et puis c'est bon quoi.
Moi je t'avoue, hein, s'il y a vraiment quelque chose qui me gêne au plus haut point dans une partie, mais vraiment quelque chose qui passe pas, tu vois, que en vrai je me sentirais mal ou quoi. Je quitte la conversation et puis je me barre.
Mais quand tu quittes la conversation, tu dis quoi? Tu dis bon bah salut et tu disparais comme ça comme un nuage. C'est entre les deux.
C'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé encore. Hein. Mais si je devrais le faire, ça peut être en pleine partie. Hein. Moi j'en ai rien à faire entre guillemets. C'est vraiment un truc qui me choque. Hein, j'entends. Parce que bon, oui. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a certains maîtres du jeu sur Donjon, disons qu'ils utilisent la table de jeu que pour véhiculer certains de leurs fantasmes. T'es là, t'es. Ok, non, c'est pas
ouais,
pour
alors,
moi.
Ça, oui. Voilà. Ouais. C'est clair. Moi, c'est...
Nope.
Ça m'est arrivé d'aller sur des groupes des groupes de joueurs de Donjons et Dragons, des groupes américains, et où les mecs donnaient des. Ils expliquaient les desiderata pour les joueurs qui voulaient. Waouh, puis en plus c'était le truc, tu sais, alors je joue à telle édition, pour les dommages, on applique ceci, en fait, c'était ultra codifié, ce qui donnait pas du tout envie de jouer en fait, parce que tu sentais que t'allais pas prendre des coups de soleil et être dehors.
Ça aussi, tu vois, par exemple, ça pourrait très bien correspondre à quelqu'un d'autre, et c'est pour ça qu'il faut bien trier les parties, et vraiment prendre et sélectionner ce qui vous intéresse. Prenez pas le truc le premier disponible, lisez bien, parce que sinon vous allez retrouver avec des surprises, et éventuellement avec des gens... Déjà, n'engagez-vous jamais à jouer une campagne, testez... Je viens jouer une fois, pour tester. Et si ça va pas, partez, hein, y aura d'autres parties.
Moi, ce que je...
Pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forcent comme ça, et c'est comme ça que t'as des horror stories qui se répandent. C'est que les gens, oh non, j'avais pas le choix, je voulais pas quitter la game et tout, faire des trucs aux gens et tout, c'était pas sympa. En plus, il y avait un de mes amis qui jouait avec moi et tout. Bah ouais, bon, après.
Mais en tout cas, un des trucs que je conseille, alors c'est aussi hein, c'est des formations du professeur, mais c'est aller avec quelqu'un. que vous connaissez, francophone, et aller effectivement sur les tables étrangères, parce que on apprend énormément de choses. En plus,
échange de culture aussi, ça c'est un truc.
Voilà, il y a cet échange de culture. Si vous êtes français avec des Américains, vous serez généralement très très bien accueillis. Et que bah, on est plus à votre écoute, parce que bah, justement il y a cette barrière de langue. Mais c'est un exercice assez extraordinaire pour pouvoir améliorer son niveau d'anglais. Parce que tout le monde vous dira oui, écoute les séries en anglais, ça c'est faux, c'est faux et archi faux. Les séries en anglais, déjà, si tu veux les écouter, il faut les écouter avec des sous-titres en anglais. Mais surtout, c'est que tu progresses pas parce que pas tant que ça, parce que tu sais, quand t'es dans une série, le son il est toujours nickel.
Ouais, ouais.
Tu as des codifications dans les langages, ils utilisent toujours les mêmes styles de langue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très très prévisibles. Quand on est dans une partie de jeu de rôle, on est dans un cadre, bien sûr, mais il peut se passer énormément de choses et on ne sait pas où ça peut aller. Et c'est ça qui est génial au niveau de la progression de la langue, parce qu'on est dans une immersion. Et qui plus est, d'ailleurs, où on se focalise que sur du... Si tu mets pas les webcams, c'est plus difficile à comprendre parce que bah, t'as pas le langage corporel. Oui. Donc faut vraiment se concentrer avec tes oreilles, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser que notre maître du jeu Kazakhstan, là, je pense qu'il était un peu prof d'anglais, ou en tout cas, il avait quand même des fortes notions. Il nous corrigeait à chaque fois quand on disait « ou » au lieu de « whoms ».
Ça c'est relou, ça.
Oui, c'est un peu relou, mais à force j'ai appris, quoi.
Non, mais en même temps là où je où je le comprends et que c'est très bien qu'il corrige, c'est que en corrigeant, ça permet aussi de dire voilà ce que c'est comme mot, et ça pourrait éviter une confusion ultérieurement si à un moment il y a un truc qui est dit et que c'est pas très précis. C'est là-dedans. Mais c'est vrai que bah, c'est ce côté international de Donjons et Dragons qui fait plaisir. Alors, est-ce que ça sera que ça à terme? Je sais pas, mais voilà, je pense que...
Bah, de toute façon, je pense que globalement, le jeu qui sera toujours le plus joué en ligne, ce sera Donjons et Dragons.
Oui.
Quoi qu'il arrive, qui aura le plus de ressources supportées.
Oui.
Quoi qu'il arrive, ce sera ça aussi. À moins qu'il y ait un revirement d'un coup. Et oui, la seule manière pour que D&D ne soit plus numéro 1, c'est que Wizards of the Coast font « Ok, on arrête de produire autant de suppléments de jeux et on fait une édition tous les 20 ans. » Et au final, t'es un peu abandonné, tu sais, comme éventuellement peut-être le comics ou quoi, où ils te ressortent des trucs vite fait et sont vraiment progressés, ce genre de choses, parce qu'ils ont les IP, et en fait, avec les IP... donc les personnages et tout ça, les histoires, bah ils te créent autre chose, et c'est ça que tu disais un peu au milieu de l'épisode, c'était qu'ils se concentraient sur ce mode de vie D&D,
oui,
et que maintenant ils ont plus besoin de créer.
C'est un mode de vie qui,
en tout cas, de créer pour le jeu de rôle.
Bah tu sais, tu prends le comics, hein, c'est un truc absolument terrifiant, c'est que la ligne bande dessinée de Marvel, elle pourrait en fait disparaître parce qu'ils gagnent pas d'argent, mais elle est obligée de rester parce que c'est ce qui sera le vecteur pour d'autres films ou d'autres choses. Bah, là, elle gagne quand même de l'argent. Je précise, je reprécise, mais elle en gagne beaucoup moins en fait. C'est quoi? Tu prends le poids Marvel, le film, les studios Marvel. Voilà.
Oui.
Mais là, dans ce Donjons et Dragons, je reviens à mon truc. Ma figurine qui est à $350.
oui.
Wizard, ils gagnent rien sur des bouquins. Ils vendent des bouquins $50. Oui. Donc, maintenant, soit 59. Ils gagnent pas là-dessus. Et on aura, comme tu disais, je vais pouvoir finir là-dessus. Comme tu disais, c'est évident qu'à un moment on va avoir un supplément et le truc sera que sur du PDF, ça sera des exclusivités D&D Beyond.
Et puis aussi, un des trucs, c'est le côté sur Disney Beyond qu'il y a déjà maintenant, c'est les macro-transactions et les micro-transactions. Donc les macro-transactions, enfin ce que j'appelle les macro-transactions, c'est quand t'achètes ton livre en entier, et puis les micro-transactions, où t'achètes chapitre par chapitre, ou subclasse ou monstre par monstre, quoi. C'est vraiment au détail, quoi. Tu peux acheter tes petites parties par $2, je pense, de ton livre. Alors bon, ça, au final, ça te revient toujours plus cher d'acheter partie par partie, mais si t'es intéressé en tant que joueur que par-ci, bah t'achètes ce qui te correspond, et puis voilà, et ça permet aussi, à mon avis, à Wizard de toucher le public, qui leur intéresse aussi, qui met jamais la main à la patte, les joueurs.
Oui, c'est ça, c'est ça parce que on sait bien que dans le jeu de rôle, il n'y a qu'une seule personne qui achète. Et c'est ce que disait d'ailleurs Mathieu Saint-Toux dans la très bonne interview qu'il avait faite pour French Wargame. Il dit quand tu fais des jeux de figurines, tout le monde paye pour acheter des figurines. Non. Et que t'arrives avec ton armée que t'as acheté la peinture et tout ça. Dans le jeu de rôle, c'est pas le cas. Et effectivement, de dire, vous voulez le personnage, c'est $2, $3. Bien, plus ton abonnement, bah, tu vas le prendre assez, assez naturellement, mais tu vas le prendre beaucoup plus facilement que si on te demande d'acheter tel ou tel truc.
Oui. Et d'ailleurs, tu parlais de payer. Il faut savoir aussi pour les jeux en ligne comme ça, en anglais, tu verras beaucoup de payer pour jouer, en plus de en termes d'annonce, en type d'annonce. Et c'est sans doute l'endroit où je vois le plus de parties, et ça a commencé par là, très certainement aux États-Unis avec Donjons et Dragons, où on te fait payer pour jouer à Donjons et Dragons, et surtout on te fait payer pour jouer des modules de Donjons et Dragons, des trucs déjà tout faits. Et j'étais là, je me fais ouf.
C'est quand même.
Je pense que c'est aussi. Y a une partie. C'est aussi, je pense, pour impliquer les joueurs.
Oui, mais après, je sais plus c'était combien les prix. C'était quand même assez haut pour du jeu en ligne comme ça.
Oui, sur des modules moi aussi, j'avais vu des annonces.
C'était dans l'ordre de 20 à $25 la séance. Ouais,
je me disais, mais j'espère qu'il ne fait pas de faute de VRB régulier, notre maître de jeu, parce que là, ça va être un peu fort. Mais donc, voilà, donc notre discussion touche à sa fin, et on voit que c'est une
discussion. On a navigué quand même assez large sur cette discussion.
Oui, très large, mais de toute façon, c'est ça aussi, hein, les discussions dans l'auberge, et on va où vient. On a même eu cette information pour ce qui était de Wizard. On va se retrouver la semaine prochaine, et on va on parlera cette fois des sorts. Alors attention, on a déjà fait une émission sur
la magie,
mais là on va parler des sorts qui, pas forcément des sorts les plus puissants, mais des sorts de Donjons et Dragons qui sont peut-être les plus étonnants, les plus poétiques, ceux qui déclenchent énormément, qui déclenchent l'imaginaire, bref, voilà, donc c'est.
Donc on parlera pas de boule de feu, c'est ça?
Non, voilà, on va éviter de parler du traditionnel, le sort de tous les sorts, la boule de feu, Ben, qu'on réinvitera pour parler du combat dans Donjons et Dragons, a eu cette phrase en disant boule de feu, c'est vraiment un sort de boucher. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, donc nous vous disons donc à la semaine prochaine. Pour ma part, je n'ai que deux choses à ajouter. Tout cela n'est que du jeu, et que vos parties sont belles.
À très bientôt.